Bonjour Carlo Ginzburg.
Bonjour.
C'est un grand honneur de vous recevoir ici au cours des rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous êtes un immense écrivain, on vous dit représentant de la micro-histoire. Je n'aime pas beaucoup ce terme, on va en parler dans quelques instants pour le définir. Vous êtes intéressé notamment à l'histoire des persécutions à travers un meunier frioulant du XVIe siècle, Menocchio, brûlé par l'Inquisition. C'est dans un ouvrage intitulé « Le fromage et les vers ». Il a été publié en 1967. Et c'est cet ouvrage qui vous a fait connaître. Et finalement, il y a un fil dans votre œuvre. Vous êtes intéressé aux marginaux, aux persécutés, aux fêlés, ceux qui laissent passer la lumière. Vous êtes intéressé également à l'imaginaire, en nous expliquant finalement au fil de vos livres que l'imaginaire est quelque chose parfois de beaucoup plus concret que la réalité même. Alors, nulle île est une île. Que vouliez-vous dire lorsque vous êtes intéressé justement à l'Angleterre? Alors, c'était par le biais de la littérature anglaise, Carlo Ginzburg.
Oui. Alors, il s'agit de quatre conférences que j'ai données à Cambridge il y a longtemps. Et le titre, c'est un renversement de ce dicton de John Donne, le poète, écrivain anglais au XVIIe siècle, qui disait que chacun est lié à d'autres gens, personne n'est une île. Alors j'ai dit, et j'ai parlé justement de l'Angleterre, que il n'y a pas d'île qui soit coupée par rapport au continent, par rapport au monde. Et justement, j'ai exploré des cas. Parce que, si vous voulez, là je voudrais ajouter un fil au fil que vous avez suggéré, il y a aussi, disons, la passion pour les cas. Le cas en tant que sujet d'exploration. Les cas qui sont toujours liés à des séries, mais ce sont des séries qu'il faut construire. Et je dois dire que parmi les cas, j'ai une tendance à analyser des anomalies, parce que je pense que les anomalies du point de vue cognitif sont plus riches par rapport aux normes, parce que les normes ne peuvent pas inclure toutes les violations de la norme, tandis que les anomalies incluent d'une façon inévitable, par définition, la norme.
Mais alors, aujourd'hui, on évoquait dans la revue de presse internationale les soubresauts internationaux. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que la norme soit encore plus dure qu'auparavant. Il y a par exemple une norme identitaire. Et parmi les historiens, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais vraiment cru dans les identités.
Oui, c'est vrai. Et c'est-à-dire que, évidemment, c'est un mot répandu. Mais je dois dire que lorsque on parle d'identité, parfois j'ai montré aux étudiants
vous fouillez dans votre
ma
portefeuille.
Pièce d'identité. C'est-à-dire que, alors oui, ça je comprends, mais lorsqu'on parle d'identité au niveau métaphorique, etc., alors là je suis perplexe. Et là il y a une distinction à faire, à mon avis, entre, j'ai écrit un article il y a quelque temps qui existe en français aussi, « Nos mots et les leurs ». Alors, il s'agit de la distinction entre les catégories de l'observateur, nos catégories, nos mots, et les catégories des acteurs. Et en fait, il y a un anthropologue, linguiste, missionnaire protestant américain qui s'appelle Pike, qui a parlé longuement de cette dichotomie entre les catégories des acteurs et les catégories de l'observateur. Et j'ai trouvé que sa façon de dire que les catégories de l'observateur sont les seules catégories scientifiques était un peu naïve. Et là, je suis reparti de l'historien qui m'a inspiré pendant toute ma vie professionnelle, c'est-à-dire Marc Bloch. C'est lui qui m'a converti à l'histoire. Et là, j'anticipe quelque chose sur l'imaginaire, parce que les livres qui m'ont converti à l'histoire, j'avais 20 ans, ça a été les rois thaumaturges, qui n'avaient pas été réimprimés à l'époque, mais j'ai lu ce livre, c'est un livre publié à Strasbourg en 1924, sur la touche royale, la croyance que les rois légitimes français et anglais avaient de soigner les gens qui souffraient des cruelles, c'est-à-dire c'est une maladie qui affectait les glandes du cou, etc. Et alors Bloch a étudié ce problème marginal, une anomalie si vous voulez, par rapport à ce qu'on regardait comme les grands problèmes de l'histoire. Mais lui, il a abordé un grand problème, c'est-à-dire les attitudes à l'égard des royautés, etc., à travers un fait tout à fait marginal.
Et alors justement, le travail de Bloch est... À la suite, ce que vous avez fait, Carlo Ginzburg, consiste à dire que finalement, ces hommes qui sont nos ancêtres, qui pensaient que les rois étaient des rois guérisseurs, n'étaient pas des fous, comme on pourrait le penser, mais qu'ils avaient en réalité une logique, et que le rôle de l'historien était justement de comprendre ces logiques-là.
Oui. C'est-à-dire que, évidemment, encore une fois, nos mots et les leurs, et j'ai abordé ça à travers Bloch, c'est-à-dire qu'il s'était posé la question... Et c'était à la fin des années 30. Est-ce qu'on peut utiliser, nous, en tant qu'historiens, est-ce qu'on peut utiliser un mot comme classe, dans le sens de classe sociale, pour le Moyen-Âge, lorsque, à cette époque, le mot classe n'avait pas cette signification? Alors, la question est tout à fait cruciale. Et j'ai trouvé, disons, sa façon d'aborder ces problèmes centrale. Aujourd'hui, lorsque on parle d'histoire globale, il y a le problème d'analyser des cultures très différentes par rapport à la nôtre. Alors, évidemment, les anthropologues ont abordé ces problèmes il y a longtemps, et Bloch déjà a été impliqué dans un dialogue poussé avec l'anthropologie, même si il y a un silence que je n'ai pas pu expliquer, c'est-à-dire l'absence... d'un dialogue explicite avec Marcel Mauss. J'ai beaucoup travaillé sur Mauss, je suis fasciné par Mauss.
Qui est l'un des fondateurs de oui. L'anthropologie.
Oui, exactement. C'était lié même, disons, à Durkheim, son oncle, et l'un des fondateurs de l'anthropologie, pas seulement française. Mais alors Bloch, c'est-à-dire qu'il y avait ce dialogue avec l'ethnographie, mais pour lui, l'ethnographie, c'était surtout Fraser. Mais là aussi, dans Les Rois Thaumaturges, j'ai trouvé quelque chose qui m'a obsédé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la distinction entre deux méthodes, deux approches. D'un côté, ce que Bloch appelait la comparaison ethnographique. Et pour lui, c'était Fraser. Alors, les rois guérisseurs, on peut les trouver un peu partout. Mais... Bloch a dit, non, pour moi, sera la comparaison historique. C'est-à-dire entre des sociétés qui ont eu, depuis le néolithique, c'est lui qui dit ça, des rapports historiques. Alors, dans ce cas, c'est la comparaison entre la France et l'Angleterre, qui n'était pas une île.
Et justement, lorsque vous faites des comparaisons, puisque ce que vous prenez comme méthode, et c'est cela en fait qui a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant la micro-histoire, vous considérez finalement que l'histoire doit s'enrichir avec l'anthropologie et que l'anthropologie peut essayer de mettre à jour ce qui se passe dans l'imaginaire, non pas seulement des individus, mais des peuples. Vous avez commencé par Menocchio, je l'ai dit, c'est un meunier frioulant qui, au XVIe siècle, a des problèmes avec l'Inquisition parce que il a développé dans son esprit des croyances qui sont des croyances hérétiques, mais qui lui sont des croyances personnelles. Il imagine qu'il y a dans le fromage, dans les vers, des anges, une sorte de métaphysique de la pâte fermentée. D'où cela lui vient-il, Carlo Ginzburg?
Alors, pour lui, c'est une métaphore. Mais c'est-à-dire qu'il regarde le fromage... Les fromages pourris. Alors là, je dois partager avec vous une petite anecdote. J'avais publié ces livres en 1973,
c'était le séminaire, et 76, c'est la date de publication.
Exactement. Alors, les livres étaient publiés par Einaudi, et il y avait une liaison très étroite entre Giulio Einaudi, mon éditeur, et Fernand Braudel. Je crois la première traduction de la Méditerranée au monde a été imprimée par Einaudi. De toute façon, Braudel a écrit un petit mot à Giulio Einaudi. Il avait reçu mon livre. J'ai lu la lettre. J'ai une copie de la lettre que on m'a donnée après des années. Et alors Fernand Braudel disait, c'était quelque chose de très généreux. Il disait que il avait beaucoup aimé les livres, qu'il voulait publier les livres dans la série qu'il dirigeait pour Flammarion, ce qu'il a fait. Et pourtant, les titres, non, les titres, c'est impossible. Alors, je pensais que en Italie, évidemment, ça existe, c'est-à-dire les fromages avec les verres, ça existe en Sardaigne, dans l'Italie du Sud. Mais en France, écoutez, ça non. J'ai insisté évidemment. Alors, les fromages et les verres a voyagé. Il y a maintenant 26 traductions dans le monde. Je crois que on a gardé les titres parce que le titre c'est, disons, traduisible et intraduisible en même temps. Mais il faut le garder. De toute façon,
oui. Alors, oui. Il faut se remettre dans la situation de l'époque, Carlo Ginzburg, parce que c'était particulièrement culotté de votre part de faire un travail d'historien sur un homme qui n'était pas connu, qui était vraiment un humble, c'était un meunier, même s'il avait deux moulins, il n'était pas évidemment un noble, et de partir de ses croyances en considérant que l'Inquisition, dans son interrogatoire, était finalement dans le rôle non pas d'un historien, mais d'une sorte d'anthropologie en marche, parce que finalement, les inquisiteurs tentaient de comprendre ce que croyait ce meunier.
Oui, mais alors, vous avez condensé, et c'est tout à fait légitime, une trajectoire qui, pour moi, était longue. C'est-à-dire que je suis parti, et vraiment, ça a été les débuts de ma, disons, vocation, entre guillemets, d'historien. J'étais étudiant à l'École normale de Pise, et je me rappelle le moment où je pensais... J'ai pris une décision, en fait trois décisions en même temps. Essayer de devenir historien, travailler sur les procès des sorcières, essayer de saisir le voile, les attitudes des victimes. Et j'ai pas eu dans ce moment la conscience que les troisièmes points, c'est-à-dire essayer de saisir les voix et les attitudes des victimes à travers les archives de la répression, impliquait un pari méthodologique sérieux. Mais de toute façon, oui, j'ai commencé, je ne savais rien, j'ai commencé. Et il y avait quelque chose de profond, de caché, que j'ai découvert après des années, des années. Et le fait que cette connexion dont je vais parler a été cachée, ça a été pour moi une surprise énorme. C'est-à-dire, je parlais avec quelqu'un, j'avais déjà publié mon premier livre qui s'appelle en français « Les batailles nocturnes » sur un groupe de sorciers, je parlerai peut-être.
Absolument, on en parlera oui. Tout à l'heure.
Et aussi « Le fromage et les verres ». J'ai parlé avec un ami à Turin, face de la maison d'édition Einaudi, et il m'a dit « Oui, c'est tout à fait évident, tu es juif, tu travailles sur les sorcières et les hérétiques. » J'ai pensé, eh oui, c'est évident. Et pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et alors je pense, en tant que lecteur de Freud, que il y a eu une stratégie inconsciente qui m'a protégé par, disons, une conscience qui aurait été un peu rigide, qui aurait dirigé ma trajectoire peut-être un peu trop. Et le fait que, disons, la connexion travaillée en profondeur a permis à cette connexion d'agir. Alors, il y avait évidemment, mais pas pour moi, ou peut-être oui, c'est-à-dire il y avait une sympathie, un investissement émotionnel par rapport aux victimes. Mais ce que j'ai découvert après des années, c'était qu'il y avait aussi une continuité troublante avec les inquisiteurs.
Parce qu'au fond... Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire, les inquisiteurs? Ils ne cherchaient pas d'abord, et c'est l'un des atouts de ce livre, c'est que vous montrez, Carlo Ginzburg, que les inquisiteurs, avant de condamner, cherchaient à comprendre l'homme qu'ils avaient en face d'eux et qui avait des croyances vraiment bizarres, ce fromage, ces vers, ces anges.
Alors, ce livre, « Le fromage et les vers », est coupé en paragraphes. Et j'ai dit, alors il y a une postface à l'édition italienne qui vient de sortir. J'ai rappelé que à l'époque, c'est-à-dire au début des années 70, j'avais commencé à enseigner à Bologne et j'étais impliqué dans un projet lancé par Italo Calvino, le grand écrivain italien, et Gianni Celati, lui aussi très brillant, mais au début de sa carrière. Et il avait un projet d'une revue. Et nous avons commencé à discuter ensemble, etc. Et je me rappelle que à l'époque, j'ai lu Exercice de style de Raymond Queneau. Et en français, une traduction italienne n'existait pas, c'est-à-dire, je sais que maintenant il y a une traduction de Umberto Eco que j'ai pas lu. Mais de toute façon, j'ai lu Queneau, ça m'a amusé énormément, comme vous pouvez imaginer. Et alors, à un certain moment, je pensais, peut-être le livre que je vais écrire pourrait jouer un peu dans la direction de Queneau. Vous savez que il y a, disons, un fait divers sans intérêt qui est raconté dans, je sais pas, 99 façons différentes. Bon, alors j'ai pensé, oui, alors je pourrais mettre un paragraphe avec un style, je sais pas quoi, une parodie. Bah, j'ai compris tout de suite que c'était ridicule, c'était pas à la hauteur des documents. Mais c'est trop.
Non, c'est pas que c'est trop. C'est oui. On approche bientôt, en fait, de 8 heures.
Excusez-moi.
Et donc, mais non, c'est merveilleux de vous entendre. Mais donc, on va se retrouver dans quelques instants, juste après les informations. Vous continuerez à nous donner des nouvelles de ce meunier frioulant. Et puis, vous nous parlerez des sorcières. Parce que dans les batailles nocturnes et dans le sabbat des sorcières, vous avez évoqué ces sorcières dont on parle beaucoup aujourd'hui. Très bon réveil à tous. Il est 8 heures sur France Culture.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Depuis Blois et depuis les rendez-vous de l'histoire, nous sommes en compagnie du grand historien italien Carlo Ginzburg. On dit de lui qu'il a inventé la micro-histoire, une manière de marier anthropologie et histoire, histoire de cas individuels, comme celui de ce meunier jugé par l'Inquisition au XVIe siècle, et puis une manière aussi de s'intéresser aux marginaux, à l'imaginaire. Mais j'aimerais, Carlo Ginzburg, que vous évoquiez la situation politique de votre pays. Qu'est-ce qu'un historien se dit lorsqu'il voit les soubresauts politiques de la péninsule ?
C'est-à-dire que il y a 3 mois, je crois que ma réponse aurait été un peu différente. Quelque chose a changé pour le mieux. Mais la situation reste très fragile. Et je pense que et quelque chose a changé d'une façon dramatique dans la société italienne. Et je crois qu'il y a eu, disons, un faiblissement tragique de la gauche, ce qui évidemment n'est pas seulement un phénomène italien, mais chaque pays a des histoires différentes. Et vraiment, c'est un grand problème. Je crois que il faudrait relancer la gauche, repenser la gauche, mais ce sont des mots évidemment, lier, disons, un projet à ce qui se passe dans la société italienne, parce que alors la donnée fondamentale de l'histoire d'Italie, évidemment, a été évoquée ici lorsqu'on parlait de la mode, c'est le fait que l'Italie, c'est un pays polycentrique. Le rapport avec la France, l'opposition avec la France joue un rôle symbolique en Italie depuis longtemps. C'est, disons, ce système polycentrique qui implique aussi des ressources oubliées, cachées. Il faudrait, disons, faire appel à ces ressources. Lorsque je voyage en Italie, je suis toujours frappé par le fait que, même dans des centres tout à fait petits, il y a des gens magnifiques qui font un travail magnifique. Et pourtant, au niveau national, ça, c'est différent.
Votre famille, car on l'a dit tout à l'heure, vous êtes juif italien. Votre famille a résisté aux fascistes. Votre père est mort dans les prisons italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on évoque un retour du fascisme des années 30, qu'est-ce que vous en pensez, Carlo Ginzburg, comme homme et comme historien ?
Alors, je dois dire que j'ai toujours résisté à l'idée d'utiliser le mot fascisme en dehors de son contexte spécifique. Et pourtant, il y a, je crois, 4 ans, j'étais à Chicago, j'enseignais là-bas en tant que visiting professor, et j'étais en train de voir à la télévision la campagne électorale de Trump, et pour la première fois dans ma vie, j'ai pensé, mais celui-là, c'est un fasciste. Et alors, j'ai repensé à une conversation que j'avais eue avec Italo Calvino. J'ai évoqué son nom. J'ai appris beaucoup de lui. C'était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Pas seulement un romancier. La lucidité de son esprit, c'était vraiment remarquable. Et je me rappelle, je crois que c'est autour de 1969, il m'a dit, tu vois, alors, après l'Argentine, en repensant à l'expérience de Perón, je pense que la définition même de fascisme doit être repensée. Et j'ai toujours pensé à cette remarque. Je me rappelle qu'il y a longtemps, dans une conversation publique avec un ami, je dis « je crois que le fascisme a un futur ». C'était évidemment quelque chose de très amer, mais une remarque amère. Et pourtant, je pense que si on évidemment, ça implique une définition du fascisme qui va être construite.
C'est pas. Ça serait quoi ?
C'est-à-dire que, par exemple, je pense que, disons l'antisémitisme, par exemple, n'est pas un élément nécessaire. Même si, je dois dire que tout à fait récemment, j'ai découvert un livre de quelqu'un qui est devenu après la guerre recteur de l'université de Palerme, qui s'appelait Maggiore, qui en 1938 avait écrit un livre Fascismo e razzismo, après les lois raciales italiennes en 1938, où il citait un passage très long de Mussolini, un article qu'il avait publié dans les Popoli d'Italia dont il était directeur en 1919, tout à fait antisémite. J'étais surpris, c'est-à-dire que, et pour Maggiore, c'était, nous ne sommes pas, disons, nous ne sommes pas en train de suivre les Allemands. Nous avons notre tradition antisémite à nous.
Et Salvini, c'est un fasciste?
Salvini, à mon avis, c'est un fasciste. C'est un fasciste, disons, qui fait appel d'une façon délibérée à, disons, au mot d'ordre fasciste, etc. Mais de l'autre côté, évidemment, le contexte est tout à fait changé. Alors, on revient à l'idée que le fascisme a un futur, malheureusement. Ça veut dire que, disons, il y a, par exemple, et je suis en train de réfléchir là-dessus, le rapport entre, disons, le leader, le chef, le leader et le masse. Dans un contexte où, disons, les moyens de communication ont changé. Mussolini avait été, disons, un pionnier en utilisant la radio, etc. À ce moment, ici, il y a évidemment, disons, l'Internet. Et je pense que, alors là, il y a ce livre extraordinaire d'un Français, Gustave Le Bon, Psychologie des foules, un livre que Mussolini a déclaré en 1926. J'ai lu ce livre plusieurs fois. Pour moi, c'est une source d'inspiration. Et Le Bon, c'était quelqu'un de remarquable. Il a écrit un texte antisémite que je viens de lire à la Bibliothèque nationale il y a 2 jours, parce qu'il a été réimprimé récemment, en 2004, je crois, par une société des amis de Gustave Le Bon. Réimprimé en tant que quelque chose qui a un message à dire, à lancer, aujourd'hui, en France, au monde. Et ce livre de Le Bon, qui est un livre remarquable, Psychologie des foules, a été traduit dans une dizaine de langues, lu et annoté, pas seulement par Mussolini, mais par Kemal Atatürk, en France, en Angleterre, etc. C'est-à-dire que, et il s'agit d'une analyse des foules en tant que phénomène nouveau. Et comment peut-on diriger les foules? Et à mon avis, alors je suis en train de préparer une intervention pour un séminaire qui aura lieu dans quelques semaines à Los Angeles sur les fake news. Et mon intervention sera axée, centrée sur les bons et les futurs possibles des les bons dans une société différente avec de moyens de communication, des outils tout à fait différents.
Carlo Ginzburg, il y a deux jours, pendant la fête juive de Yom Kippour, il y a eu un attentat contre une synagogue en Allemagne, dans la ville de Halle, avec un homme qui s'est réclamé, en tout cas de par son costume, du nazisme, qui a, semble-t-il, évoqué un certain nombre de théories racialistes, suprématistes, évoquant les juifs comme étant des ennemis des blancs. Comment vous analysez ce type à la fois de résurgence et ce discours?
Malheureusement, l'antisémitisme existe, a existé, existe et va exister dans un futur prévisible. Et nous savons qu'il y a antisémitisme même dans des pays où il n'y a pas de juifs. C'est-à-dire que l'enjeu symbolique, au-delà de cibles bien réelles, c'est quelque chose qui frappe. Il y a les deux. Le symbolique et ce qu'on pourrait appeler la lettre.
Justement, lorsque vous avez mené vos différents travaux, vous êtes intéressé alors à des périodes qui sont très anciennes, comme par exemple le XIVe siècle, qui est une période très troublée avec la peste noire, avec à la fois une orthodoxie religieuse et des hétérodoxies qui, bien entendu, viennent heurter cela, et avec aussi un terme qui est devenu aujourd'hui extrêmement commun, le terme de complotisme. C'est à cette époque-là que le complotisme a été particulièrement vif en Occident, et c'est ce qu'on retrouve, puisque cet homme qui a assassiné deux personnes et voulait en tuer plus à Halle considérait qu'il y avait un complot. Comment voyez-vous le complotisme alors dans vos travaux et ce qu'il est devenu aujourd'hui ?
Oui, alors dans un livre qui s'appelle « Les sabbats des sorcières » en français, qui a été publié par Gallimard, j'ai dédié la première partie à un complot, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui surgit en France en 1321, l'idée qu'il y avait un complot lancé par les lépreux contre la société chrétienne. Les lépreux voulaient empoisonner les eaux, etc., pour tuer les chrétiens. Et ensuite, il y avait une deuxième version du complot. C'était pas les lépreux seulement, c'était les lépreux inspirés par les juifs. Ensuite, il y avait une troisième version, les lépreux inspirés par les juifs, inspirés par les musulmans qui vivaient à Grenade. Alors, j'étais très frappé par cette histoire que j'ai essayé de reconstruire en détail, et j'ai proposé de voir dans ce chapitre l'origine d'un des volets du stéréotype du sabbat des sorcières, c'est-à-dire l'idée du complot. Cette fois, c'était pas, disons, ni les lépreux, ni les juifs, ni les musulmans, mais les sorcières. Mais de l'autre côté, il y avait, disons, les racines populaires, soi-disant. Alors là, c'est l'autre côté de mon livre, l'idée que il y a eu, disons, une couche de croyances eurasiatiques qui s'est rattachée aux chamans ou de gens semblables aux chamans, qui entretenait un rapport spécial avec l'au-delà.
Alors voilà, c'est ça l'une des spécificités de votre livre, c'est que vous avez considéré finalement qu'il y avait des croyances qu'on trouvait chez les paysans, alors les paysans du Frioul, les paysans du Frioul au XVIe siècle, et les chamans qui sont plutôt, là en l'occurrence répandus, par exemple en Sibérie. Autrement dit, c'est l'idée qu'il y a des structures dans l'imaginaire. D'ailleurs, vous avez été inspiré par Lévi-Strauss, Carlo Ginzburg. Est-ce que ça veut dire finalement que le complotisme est en quelque sorte presque inscrit dans nos manières de penser, dans nos cerveaux, pas nos cerveaux biologiques, mais nos cerveaux au sens large?
D'abord, je dois dire que j'ai essayé de trouver des connexions historiques entre, disons, le Frioul et la Sibérie. C'est le titre d'un essai que j'ai écrit. Alors, pour moi, je disais justement auparavant, dans une conversation privée, pour moi, Lévi-Strauss a été pendant des années, l'incarnation de l'avocat du diable, c'est-à-dire un défi intellectuel puissant. De toute façon, je pense que le complotisme, c'est-à-dire ma thèse, c'était que chaque complot en cache un autre. C'est-à-dire que le complot, entre guillemets, cache un complot réel. Là, il y a quelque chose que j'avais appris d'une façon douloureuse, si vous voulez, en Italie pendant les soi-disant années de plomb. Je me rappelle que lorsque il y a eu, disons, une bombe à Milan, etc., quelques jours après, le Corriere della Sera avait un titre « On a trouvé, disons, l'anarchiste Valpreda, le tueur de Milan, etc. » Est-ce qu'il y avait des preuves? Et ensuite, après des années, on a découvert que derrière Valpreda, qui était tout à fait innocent, il avait les services secrets, une aile de services secrets, il y avait un groupe néo-nazi, etc.
Bon, mais ça, c'était un vrai complot. C'était un complot monté par l'État italien, par les politiques italiens, dans le cas des sorcières que vous avez analysées. Où était le complot, Carlo Ginzburg?
En 1321, je n'ai pas de doute, j'ai essayé de prouver que l'idée du complot n'était pas surgie d'en bas, a été répandue à travers, disons, des aveux arrachés par la torture, et il y avait, disons, cette image du complot qui circulait. Et on a essayé de, disons, renfermer les lépreux, chasser les juifs, etc. Il y avait des enjeux politiques. Alors l'idée du complot entre guillemets qui en cache un autre, à mon avis, ça commence en Europe à cette époque-là.
Et aujourd'hui, justement, lorsque vous voyez la montée effectivement du complotisme, des fake news, vous avez utilisé le terme en français. Maintenant, on essaie de dire un fox. Donc, lorsque vous voyez cette montée-là, comment vous l'analysez, Carlo Ginzburg?
C'est difficile à dire. C'est-à-dire que, évidemment, disons l'idée de répandre un mensonge pour des buts politiques n'est pas nouvelle. En fait, j'avais été invité à un colloque à Lima l'année dernière, et j'ai proposé comme titre sur les fake news, et j'ai dit « une vieille histoire nouvelle ». Parce que l'histoire, c'est nouvelle, mais elle est très ancienne aussi. Et les outils sont différents. Et là, il y a une expertise que je n'ai pas, malheureusement. C'est-à-dire, comment peut-on démasquer le mensonge? Et à mon avis, du côté des historiens, on peut dire avec la philologie. La philologie, qui n'est pas un vieux mot, c'est un outil très puissant. Et si vous voulez, mon modèle, c'est l'humaniste italien Lorenzo Valla, qui au XVe siècle a démontré que la soi-disant donation de Constantin, qui donnait à l'Église de Rome un tiers, c'était l'empereur Constantin qui aurait donné à l'Église chrétienne un tiers de l'Empire, était un faux. Alors, le fait qu'on peut démontrer qu'il y a des faux avec des preuves, à mon avis, ça, c'est tout à fait central dans le travail de l'historien. Et aussi dans ce que les enseignants peuvent enseigner aux étudiants. Parce que nous sommes entourés par des faux, et il faut démasquer les faux.
Et lorsque vous analysez les imaginaires, et que finalement, vous montrez ce que l'on sait intuitivement et que vous avez analysé finement, Carlo Ginzburg, qu'il y a des choses imaginaires qui sont finalement beaucoup plus présentes que le réel, comment l'historien que vous êtes réussit à distinguer ce qui relève des croyances et ce qui relève du réel?
C'est-à-dire que, évidemment, disons, ce qui n'existe pas peut exister au niveau du réel, il n'y a pas de doute. De l'autre côté, il faut distinguer les deux niveaux. C'est-à-dire qu'il faut prendre des distances par rapport à la réalité en ne niant pas que la réalité en dehors de nous existe. Je me rappelle que il y a des années, j'étais aux États-Unis dans un colloque et j'ai dit vérité sans guillemets et tout le monde a commencé à rire parce que c'était un réflexe automatique dans l'académie américaine. Non, j'ai dit vérité sans guillemets, réalité sans guillemets, même si évidemment notre perception de la réalité est liée à, disons, un point de vue qui est inévitablement spécifique, mais peut être partagé.